Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, un plaisir de te retrouver.
Bonjour Yasmine.
Alors, on se retrouve, mais on n'a pas que des bonnes nouvelles. J'espère que tu as été enchanté par mon idée de ma nouvelle sur Zellers. Mais il y a quand même le déclin du français, je suis pas mal sûre, qui te préoccupe plus que le Zellers.
Ah oui, oui, grandement. Et t'en as parlé un peu en introduction d'émission, hein. Je veux pas non plus, parce qu'il y a beaucoup de statistiques, Canada, on veut pas inonder les auditeurs, là, mais certaines que je trouve plus intéressantes que d'autres, hein, pour la première langue officielle parlée à la maison, parce que évidemment, il y a les statistiques nationales, hein, du Québec en général, mais aussi si on regarde dans les régions plus particulièrement, donc à Laval, -3%, sur l'île de Montréal, -2,4%, en Outaouais, -2,4%, et tout ça en 5 ans, hein. Donc -3% en 5 ans, c'est énorme, hein. La démographie, c'est quelque chose normalement qui change tranquillement, 3%, c'est énorme, et tu sais, on sait Montréal, Laval, Outaouais, c'est ces régions-là qui où l'anglicisation puis la perte du français nous préoccupe le plus, c'est certain. Donc c'est vraiment ces statistiques là qui doivent nous attirer notre attention, ça j'en suis certain.
Oui, ben évidemment les chiffres sont préoccupants là, il y a pas de manière de regarder ça sous un regard disons optimiste là, ça c'est inquiétant quand on voit 3 points de pourcentage à Laval. Pour la première langue parlée, parce que si c'était la langue maternelle, ben on se dit, ben ça veut pas nécessairement dire que les allophones n'utilisent pas le français, n'ont pas fait un transfert vers le français. Mais là, on parle de la première langue officielle parlée, ça commence à être sérieusement inquiétant.
Ouais, exactement. Tu le dis très bien, parce que c'est sûr, il y en a qui ont essayé de dire, et il y a quelque chose de vrai là-dedans, qu'il y a des populations allophones qui vont, par exemple, parler espagnol à la maison, par exemple, mais que dans l'espace public, ils vont parler français. Ça existe, bien sûr, mais ce qu'on voit, c'est que pendant que le français régresse, l'anglais, lui, progresse. Donc, vraiment, c'est cette dynamique-là qu'on observe. J'ai envie de dire, même, on a pas, je veux dire, la comparaison entre les deux, parce que dans le reste du Canada aussi, il y a beaucoup d'allophones. Mais l'anglais reste prédominant partout au Canada, donc on n'a pas vraiment à s'installer. D'ailleurs, parlant du reste du Canada, en Ontario aussi, c'est assez inquiétant, hein? Donc, en 2016, donc 4,1% de la population ontarienne était francophone. En 2021, c'est 3,4. Donc, c'est énorme en 5 ans. Ce qu'on remarque, c'est que le bilinguisme augmente au Québec, mais diminue au Canada. Donc, l'espèce de rêve d'un Canada bilingue d'un essai à l'autre est faux. C'est le Québec qui devient de plus en plus bilingue. Le français au Canada, en 71, c'était 27,2%. En 2021, 21,4%, moins grosso modo, moins 5%. C'est énorme en 50 ans. Donc, ce qu'on observe, c'est cette tendance-là partout. Et Yasmine, je me pose la question, et je te la pose en même temps, c'est quoi l'horizon du français au Québec et au Canada? On voit la tendance depuis 50 ans, depuis même plus que 50 ans, mais ça fait 50 ans que Statistique Canada prend ces données-là. Quand est-ce que cette tendance-là va arrêter? Et j'ai envie d'ajouter, et plus ça va diminuer, hein, plus la proportion de francophones va diminuer dans le Canada, moins ça va être attirant de parler français, parce qu'il y a de moins en moins de gains à parler français.
Mais je partage ton constat parfaitement, David. En fait, moi, ce que je me dis quand je regarde ces chiffres-là et que je m'en inquiète, c'est que des lois, par exemple, comme 96, ne vont pas permettre de renverser cette vapeur-là, ne vont pas permettre de jouer sur ce déclin-là pour en assurer à tout le moins que ça arrête, ce déclin et cette accélération. Et c'est là où je me dis, il faut qu'on arrête de se déchirer sur les questions de la langue, puis qu'on fasse front commun, qu'on serre les coudes tous ensemble, peu importe notre allégeance politique, puis ce qu'on pense. Parce que le plus important là-dedans, c'est pas est-ce que moi j'ai raison ou toi t'as raison, c'est que la finalité de la chose, c'est que la langue française doit être protégée. Et il faut arrêter d'en faire un sujet divisif, puis d'en faire un sujet de priorité nationale pour tous les partis politiques, pour tous les Québécois, pour tous les francophones et les allophones qui ont adopté le français comme langue la plus souvent parlée. C'est la seule manière de faire face au déclin du français.
T'as raison que la loi 96 va avoir comme effet chez plusieurs Québécois que le dossier est pris en charge d'une manière ou d'une autre. Alors que même si moi j'étais pour la loi 96, je suis pas fou là, c'est-à-dire on sait très bien que ça va avoir un effet assez marginal sur la langue parlée à la maison ou la langue parlée sur le lieu de travail. Là, je pense que ça va. Il y aura un certain effet, mais assez marginal. Donc, tu as entièrement raison. Mais en même temps, Yasmine, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faudrait avoir des mesures encore plus musclées que la loi 96. C'est ça que tu es en train de me dire?
Il faut avoir des mesures qui soient consensuelles de manière à ce que c'est pas juste écrit dans une loi déposée parmi toutes les lois que l'on a. C'est que on le pratique. On pratique toutes les mesures nécessaires pour assurer le rayonnement, la vitalité du français. Je veux pas que ceux qui se sentent mis de côté avec 96 jugent qu'ils ne sont pas partie prenante dans la lutte au déclin du français. Je veux quelque chose d'inclusif parce que c'est pas une sonnette d'alarme juste pour les francophones. C'est une sonnette d'alarme pour toute la nation québécoise. Puis c'est la nation québécoise, il faut additionner et non soustraire les bras, les jambes, les cerveaux et les langues pour pouvoir assurer la vitalité du Québec. Plus on sera moins à vouloir assurer la vitalité du Québec, plus le déclin va s'accélérer.
T'as sûrement raison, mais peut-être que je suis cynique, Yasmine, mais j'ai l'impression que l'espèce de consensus, l'espèce de « on veut pas cliver », j'ai l'impression qu'en 2022, ça n'existe pas. Est-ce que ça a même déjà existé? Tu sais, des mesures consensuelles pour le français, j'ai de la misère à voir ça arriver à l'horizon, là. C'est-à-dire que tout enjeu est susceptible de cliver. Avec l'époque des réseaux sociaux, on se braque très rapidement. Donc, dans un monde idéal, je serais d'accord avec toi, Yasmine, mais je vois pas ça arriver. On se clive très, très rapidement. Je voulais parler d'un autre élément sur le français, parce qu'on essaie des fois de se convaincre en disant il y a quand même 93,7% des Québécois qui se disent capables d'avoir une conversation en français. Hein, ce chiffre-là, d'ailleurs, a baissé depuis 2021, mais 93,7%, on pourrait se dire, c'est pas si mauvais que ça. C'est quand même au Québec plus de 500 000 personnes qui sont pas capables de soutenir une conversation en français, et principalement dans la grande région de Montréal. 500 000 personnes dans la grande région de Montréal, on s'entendra là-dessus, c'est quand même pas banal. Ensuite de ça, on doit se poser la question, est-ce que le français pour nous, c'est juste un outil de communication ou bien c'est un écosystème linguistique? Comme tu viens de le dire un peu, est-ce que le français, on l'utilise au marché, pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait nos recherches, ou c'est juste on l'utilise dans notre foyer, avec nos amis, tout ça, ou c'est une vraie langue, ou est-ce qu'on fait des choses sérieuses avec ça? Poser la question, c'est un peu y répondre, j'ai l'impression. On veut que ce soit un écosystème linguistique, et ça, on a beaucoup discuté à faire. Puis il y a un chercheur, Marc Chevrier, qui parlait que le Québec, en fait, au Québec, le français est de plus en plus une langue infantile, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans la vie privée, mais de moins en moins au travail, dans la recherche. Évidemment, l'anglais, on le sait bien, là, dans une certaine mesure, on peut pas s'en passer, mais le français doit quand même être la chose sur laquelle la langue autour de laquelle on gravite, là.
Bon, ben ça, c'est évidemment que le français, c'est plus que juste une simple langue, un moyen de communiquer. C'est aussi une culture qui vient avec, une identité qui vient avec. Et ça, une identité, on peut pas la forcer dans la gorge de quelqu'un à coup de loi. Ça, il faut la faire aimer. Ça, il faut faire adhérer. Il faut de la volonté pour pouvoir en faire son identité. Puis c'est ça où moi je veux en venir, parce qu'avant de dire on va arrêter d'infantiliser la langue française pour que ça devienne une langue où que l'on pratique au primaire et au secondaire et qu'on oublie après, il faut que l'on soit personnellement et individuellement des volontaires pour assurer sa pérennité, pas juste à coup de loi, puis à coup de vous versus nous. Vous êtes une menace, nous on est persécutés. Il faut additionner là. Arrêtons de soustraire, on soustrait des soldats de la langue française à chaque fois que l'on parle du nous et de vous et de la langue française.
Oui, mais à nouveau, Yasmine, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'angélisme là-dedans. C'est-à-dire qu'on vit dans une société tellement polarisée et tellement polarisante. Mm-hmm. Et force est de constater que, je parle pas des immigrants ici, mais je parle du phénomène de l'immigration. Je pense qu'il faut quand même distinguer les deux. C'est-à-dire qu'un immigrant qui arrive ici, il subit les forces du marché, en quelque sorte. Moi, un immigrant qui a tendance à se replier un peu sur l'anglicisation, aller vers des communautés davantage anglophones, je ne lui en veux pas personnellement, parce qu'il y a de fortes chances que si je faisais pareil, si j'arrivais au Québec à la même époque, je ferais probablement pareil, parce que la réalité étant ce qu'elle est, il y a des forces du marché, des forces sociales. Et ça, il faut être bien conscient de ça. Et puis, la question de « il faut faire aimer le français pour que ça devienne, fasse partie de l'identité », bien sûr. Mais en même temps, les gens apprennent pas une langue parce qu'ils l'aiment, ils l'apprennent, et là c'est peut-être triste de le dire, mais ils l'apprennent parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a des forces du marché qui font en sorte que ça l'est, parce que c'est plus attirant, parce que c'est plus utile.
Leurs enfants vont aller dans des écoles francophones à cause de la loi 101. En fait, grâce à la loi 101, ils vont aller dans des écoles francophones, puis ils vont parler français, puis les deuxième, troisième, quatrième génération, on espère que ça va être pareil pour eux. Donc, moi, je pense qu'il y a aucun immigrant qui arrive au Québec puis qui dit « moi, je vais lutter contre ma francisation ». Voilà, dès que vous me parlez en français, je ferme les yeux, je ferme les oreilles, puis je chante dans ma tête pour ne pas vous entendre. Je pense que c'est la manière avec laquelle on explique l'importance du français qu'on va convaincre, pas besoin juste de convaincre, mais qu'on va ouvrir nos cœurs et qu'on va ouvrir ces cœurs-là pour le français puis l'identité francophone du Québec. Peut-être c'est de l'angélisme, peut-être que c'est du jovialisme, mais quand je vois les chiffres d'aujourd'hui, je me dis que les discours divisifs ne donnent pas les résultats escomptés.
Oui, puis j'ai envie de dire, il doit y avoir beaucoup d'immigrants qui arrivent aujourd'hui qui sont un peu mêlés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, et ça faut pas oublier, il y a beaucoup d'unilingues francophones qui arrivent au Québec, ou du moins qui ont, par exemple, je sais pas, ils parlent français et arabe, donc oui, ils sont bilingues, mais du point de vue des langues officielles, ils vont être unilingue francophone. Ils arrivent au Québec, ils s'installent à Montréal et ils se rendent compte que l'immense majorité des emplois, du moins un grand nombre d'emplois, demandent la maîtrise de l'anglais. Donc là, ils se disent, j'arrive au Québec, en même temps, j'arrive au Canada, mais au Québec, on reste, c'est une province française, francophone, mais en même temps, j'ai comme pas le choix d'être bilingue pour travailler, c'est pas ça qu'on m'avait promis. Donc, je me mets à la place d'un immigrant, puis je conçois tout à fait qu'il est vraiment mélangé. Mais ça, il y aurait vraiment un enjeu à discuter là-dessus. Les immigrants qui sont un peu laissés pour compte aussi dans cette anglicisation-là, parce que justement, on les sélectionne du fait qu'ils parlent français, puis c'est pas assuré qu'ils parlent anglais. Hein. Nous autres, on s'imagine toujours que le bilinguisme, c'est français-anglais. J'ai justement des amis récemment qui revenaient d'Espagne, et le bilinguisme, c'était l'espagnol et le français. Ils se faisaient beaucoup plus souvent servir en français qu'en anglais. Mais nous, on a une vision vraiment bilingue anglais-français, mais c'est pas ça partout.
David, je suis sûre que c'est pas la dernière fois dont on va parler du français, de la vitalité du français. Je te donne rendez-vous demain. Je suis sûre qu'on va continuer à en parler, notamment sur la proposition des jeunes libéraux et de l'enseignement du français au cégep. Bonne journée et à demain.
À demain.